Conférence privée sur l'Apocalypse, le 7 mai 1988, par le père Philippe Arimon.
Nous sommes arrivés au chapitre 15, c'est-à-dire, si on regarde l'ensemble de l'Apocalypse, après la grande vision du petit livre qui contient toutes les décisions de Dieu, donc le livre de la vie, le livre du mystère de la prédestination. Et cette prédestination est montrée comme ayant sept niveaux. C'est ça qui est très extraordinaire dans cette vision. Dieu saisit tout l'homme et le conduit à la vision béatifique. Et c'est vrai, la prédestination nous regarde dans tout notre être, puisque la prédestination implique non seulement la gloire intérieure de l'âme, mais aussi la glorification. Puis le mystère des trompettes qui regarde les exécutions. Et je crois que le petit signe assez net entre les deux, c'est que dans les exécutions, Dieu peut se servir de cause seconde, tandis que le mystère de prédestination, c'est ce regard de Dieu sur la finalité. Dieu nous conduit à être enfants de Dieu. Et après, c'est les signes qui sont donnés dans le ciel. Chapitre 12. La femme et le dragon. Qui nous montre comme la signification de toutes les luttes dans lesquelles nous sommes. Toutes les luttes regardent le mystère de Marie. Jésus, il échappe. Et c'est vrai, ça. Et ça nous est montré que le fils de la femme, tout de suite, il monte au ciel. Jésus a connu la lutte sur la terre. Il a connu ce dialogue terrible avec le démon au désert. Mais le démon ne peut pas l'atteindre. Marie, c'est la créature par excellence, la plus fragile et la plus aimée. La double raison pour laquelle le démon la poursuit, parce qu'elle connaît la fragilité de la créature, qu'elle peut pécher, et qu'elle est la plus aimée. Elle est le fruit de la victoire même de la croix. Le fruit par excellence de la victoire de la croix. Le fruit le plus parfait. Et donc, l'attaquer, c'est attaquer Jésus. Comme il ne peut pas atteindre Jésus, le faire tomber, il montre au moins que son œuvre est inefficace. C'est la grande manière d'enlever la gloire à Dieu, cela. Marthe disait toujours que c'était la grande épreuve qu'elle vivait pendant les nuits. C'est que le démon lui montrait constamment l'inefficacité du mystère de la croix et l'inefficacité de toutes les souffrances qu'elle vivait en union avec la croix de Jésus. Le démon montrait exprès toutes les chutes, tout ce qui était, si vous voulez, les échecs de la croix, les échecs actuels de la croix. La croix de Jésus devrait sauver le monde entier et chacun des hommes. Le démon ne peut rien contre Jésus, contre le mystère du Verbe incarné. Il ne peut pas diminuer Jésus, il ne peut pas le détourner, il ne peut pas lui faire perdre de temps. Il n'y a pas de détournement pour le Christ. Il va tout de suite. Tandis que pour Marie, il pourrait y en avoir. Il n'y en a pas eu. Mais il pourrait y en avoir. Et c'est pour ça qu'il s'acharne tellement contre Marie. Et je crois que cette grande vision pour nous, du chapitre 12, qu'il faut, durant cette année mariale, regarder avec particulièrement d'attention, nous fait comprendre la signification profonde de la lutte. Marie est toujours présente dans l'Église. Elle est présente dans ses enfants. Et c'est vrai. Ce qu'elle a dit à la petite Bernadette reste très vrai pour chacun d'entre nous. Je ne te promets pas le bonheur sur la terre. Sur la terre, il y a un bonheur intérieur, puisque dès cette terre, on reçoit le centuple. Mais c'est dans la lutte. Et c'est dans une lutte constante, et plus on s'approchera du terme, plus la lutte sera intérieure, et plus elle sera forte. C'est ce que nous montre l'Apocalypse. C'est très net. Vous voyez le passage du sixième au septième, qu'il s'agisse des sceaux, qu'il s'agisse des trompettes, c'est toujours ça qui est la lutte à son maximum. Alors je crois que ça indique bien qu'il y a comme un crescendo dans l'ordre des luttes. La lutte a été à son maximum à la croix. Mais ensuite, à travers l'Église et dans l'histoire de l'Église, plus on s'approche du terme, plus la lutte est forte. Alors il est montré cela avec le chapitre 13, c'est la stratégie du dragon. Le démon imite en grimaçant, en détruisant. C'est pas un créateur, le démon. C'est pas un grand artiste. C'est un super critique. Mais c'est pas un grand artiste. Il ne crée pas, point de vue artistique. Il pourrait pas. Mais il détruit. Il y a un primat de la négation et de la haine qui est terrible. Et c'est bien ce qui nous est montré dans cette manière dont le démon va poursuivre les hommes avec cette alliance de la bête de la terre et la bête de la mer. J'ai dit bien qu'en faisant ça, vous voyez, il fait comme une sorte de grimace au mystère de l'incarnation. Parce que Dieu veut nous sauver par l'homme, puisque Jésus est notre frère. Il nous sauve par l'homme, dans le Christ. Dans l'homme transformé par le mystère du Verbe de Dieu, mais c'est par l'homme qui nous sauve. Et saint Thomas souligne ce motif très important de l'incarnation. Et le démon voudrait que ce soit l'homme qui détruise l'homme. C'est ça qu'il veut. Il aime mieux que ce soit un peu plus long, et que ce soit l'homme qui détruise l'homme, parce que ce sera plus glorieux et plus humiliant pour l'homme, de montrer la bêtise de l'homme, qui fait soi-disant son bien, et puis qui tombe dans tous les panneaux. Et ça se voit tout dans un. Et c'est plus visible que jamais. Et ça, c'est la manœuvre du démon. Vous voyez, de mentir en maintenant quelque chose qui soit du vraisemblable. Il y a toujours quelque chose d'à peu près vrai. Alors sa tactique, c'est de faire tomber l'homme par la bête de la mer et la bête de la terre. L'exaltation d'une intelligence perverse. Les sept têtes et sur les noms des têtes de la bête de la mer, des noms de blasphème. Le blasphème le plus fort, on peut le dire, c'est affirmer que Dieu n'existe pas. Sauf que je crois que nous pouvons comprendre que ces idéologies athées modernes qui se sont levées depuis 100, 130 ans, 140 ans, sont bien pour nous ces têtes de la bête de la mer, perversion de l'intelligence. C'est ce qu'il y a de pire, c'est ce qu'il y a de plus radical. Et le démon aime ça. C'est un intellectuel, le démon. Il n'aime plus, non, par définition. C'est un intellectuel fatigué. Il est très fatigué parce qu'il n'y a plus de finalité. Il ne sait plus. Il ne sait plus où aller. Plus il s'agite, plus il est lui-même. C'est le prince de l'agitation, ça. C'est extraordinaire. Et on regarde bien, c'est dit admirablement, parce que dans un symbolisme divin, c'est merveilleux, la description de la bête de la mer. C'est très fort. Et la bête de la terre la suit. Son prophète. Alors est-ce que la bête de la mer, de la terre, à ce point de vue-là, c'est... Vous voyez la grimace de Marie. Ça ne m'étonnerait pas. Profondément. C'est comme celle qui joue un rôle de médiation, la bête de la mer, la bête de la terre. Et alors, la grimace de Marie, c'est justement, c'est l'aspect terrestre, c'est l'aspect maternel, mais grimaçant. Ce qui est plus terrible. Parce que c'est une finalité qui n'est plus une vraie finalité, c'est une espèce d'enveloppement où la puissance sans intelligence, c'est extraordinaire. Marie, petite servante, est bienheureuse en sa foi. Et la caricature du mystère de Marie, c'est la bête de la terre. Je crois bien qu'on peut le dire. Quelque chose d'assez terrible dans la bête de la terre, hein, comme grossièreté. Et je vis une bête, une autre bête, montée de la terre. Vous voyez le monde de la terre, fille de Sion, elle monte de la terre. Et elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Et elle parlait comme un dragon. Donc il n'y a pas de tête. Avec des cornes. Et elle parlait comme un dragon. Et tout le pouvoir de la première bête, elle l'exerce devant elle. Elle fait que la terre et ceux qui y habitent adorent la première bête. Vous voyez la médiation. La médiation pour la séduction et la perversion de l'intelligence. Ça serait très intéressant. Étudier ça, de bien comprendre cela, de bien comprendre théologiquement. Vous savez, l'Apocalypse ne peut se comprendre que d'une manière théologique. Si on n'a pas de théologie, on dit des tas de bêtises. C'est pas l'histoire, c'est très curieux. On croit que c'est l'histoire. Non, pas du tout. Parce que c'est beaucoup trop abrupt. L'Apocalypse était vrai au moment où Jean l'a reçu. Et elle est vraie maintenant. Alors ça a pas mal changé. Quand Jean était à Patmos, Jean serait là ce soir et nous expliquerait l'Apocalypse. C'est quand même quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il dirait. Souvent, je lui demande de dire un peu ses secrets. C'est vrai, elle est encore plus vraie. Je crois que Jean, regardant aujourd'hui l'Église, dirait bien oui. Il y a des tas de choses que je comprends et que je n'avais pas compris. Parce que je crois que Jean joue le rôle d'un instrument. Il dit. Et en fond, caricature démoniaque, Le démon ne cherche qu'à caricaturer Marie. Vous comprenez bien qu'il ne peut pas. Marie lui échappe, alors il faut la caricaturer. Il est caricaturé dans le cœur de ses enfants. Alors il fait des caricatures affolantes, et intelligentes, et affolantes, c'est une brutalité. Il essaie de faire de ces confusions terribles, vous voyez. C'est le démon qui fait la confusion entre la crainte filiale et la crainte imparfaite. Le sermon de saint Augustin, durant le repas du soir, c'est excellent. Mais saint Augustin devait dire ça avec une tonalité, une force, un rhéteur, d'une puissance étonnante. Et au fond, toute l'astuce du démon, c'est ça, c'est d'arriver à faire cette confusion. Ça va très loin, saint Augustin, il tient beaucoup à ça. Hein. C'est une de ses grandes trouvailles. Saint Thomas l'a repris. Des grandes trouvailles de saint Augustin, c'est de montrer comment la crainte du gendarme, nous aurions pris la crainte du gendarme, oui. La crainte du gendarme, parce qu'il y en a peur de l'amende, et puis la crainte filiale, l'une affine l'amour, l'autre détruit l'amour. Extraordinaire, ça. C'est l'été noir, tu sais. On éteint. Quand la crainte imparfaite, la crainte de la peine s'abat sur nous, ça éteint la petite mèche qui fume, qui est encore allumée de l'amour. Tandis qu'au contraire, la crainte chaste, c'est merveilleux. C'est de ne jamais vouloir poser un acte qui soit en opposition avec celui qu'on aime. C'est de devancer ses désirs. Et ça, c'est l'épouse. Au sens très très fort. Et c'est Marie. L'épouse du cœur du Christ. Celle qui vit sous la dépendance de l'Esprit Saint. De façon plénière. Et alors la caricature, hein, de la crainte chaste, c'est bien le pouvoir de la bête. Et je dis le pouvoir. Elle n'a aucune autorité, la bête de la terre, parce qu'elle n'a pas d'intelligence. Donc elle n'a pas d'autorité. Mais c'est le pouvoir qui se fait sentir avec force. Elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qui lui a été donné de faire devant la bête. Ceux qui habitent la terre, c'est ceux qui mettent leur finalité sur la terre. Et nous avons ensuite alors ce qui fait remonter chapitre 14, ce que nous avions vu la dernière fois, ce chapitre 14 qui est très beau. Et je vis, et voici l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 milliers, ayant son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Vous voyez, c'est toujours ce double aspect que donne l'Apocalypse. Il nous montre le combat terrible sur la terre. Et puis, alors on croirait. On croirait que le combat est tellement fort que personne ne peut résister. Du reste, il est dit. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, on leur mette une marque sur la main droite ou sur le front pour que personne ne puisse acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Ici est la sagesse. Vous voyez, ça va jusqu'à l'économie. Toute l'économique d'aujourd'hui, c'est marqué par la bête de la terre. Si on gratte bien, Si vous n'êtes pas dedans, ben oui, vous n'avancerez pas. Vous enliserez. C'est comme ça, parce qu'au fond, le démon sait très bien que les hommes ont une telle soif de pouvoir, telle soif de richesse. Alors il promet toujours des richesses extraordinaires si on veut le suivre. C'est pas nécessairement un contrat avec le démon. Il se cache derrière la bête de la mer. C'est à travers la bête de la mer qu'il se cache. Et là, on se laisse prendre. C'est vrai, un contrat direct avec le démon, ça existe, mais c'est plutôt rare. Tandis que des quantités de séduction à l'égard de la bête de la mer, ça, je crois, des quantités. Si on n'est pas très attentif. Et alors, c'est pour ça qu'il est dit ici, qu'il faut avoir cette attention. Ici, c'est la sagesse. Ici est la sagesse. La sagesse, c'est le discernement. Que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Donc c'est possible pour nous de calculer le chiffre de la bête. C'est donc possible pour nous de discerner ce qui est de la bête et ce qui n'est pas de la bête. C'est ça que ça veut dire, calculer le chiffre de la bête. Il ne faut pas voir le démon partout, c'est bien évident. On va le voir partout. Mais il ne faut pas non plus ne le voir nulle part. Parce que ça fait partie de son astuce. Les deux astuces du démon, c'est de faire croire qu'on voit partout. Derrière n'importe quel mannequin, c'est le démon, c'est un mannequin, il ne peut pas être autrement. Et puis le voir jamais, il se cache complètement. Très curieux. Et ça passe assez facilement d'un à l'autre. Alors que Dieu nous donne l'intelligence, il nous donne la sagesse. Et la sagesse, c'est un esprit de discernement, c'est dit dans le livre de la sagesse. Que celui qui a l'intelligence, qui a de l'intelligence, calcule le chiffre de la bête. C'est ça que donne la sagesse. La sagesse nous fait discerner les vrais frères des faux frères. Ceux qui apparaissent, oui, comme il est dit, apparaissent comme ayant des cornes semblables à celles d'un agneau. Mon bon petit agneau. Puis derrière, on entend tout simplement qu'il parle comme un dragon. On voit très très bien. Alors, face, voyez, à ce pouvoir si grand, parce que je crois que si la bête de la terre pouvait, voyez, faire des sondages, on aurait le sondage que tout le monde est derrière la bête. Tous. Sera habillé comme sur un autre. Ça, j'en suis persuadé. Et c'est l'esprit de sagesse qui permet le discernement. Parce qu'il amplifie. Il n'a pas peur du mensonge. Alors on y va le plus qu'on peut. Il y a toujours un petit fondement. Un petit rien du tout. Et on amplifie. C'est extraordinaire de voir ça. Et c'est tout le temps comme ça. Ça, c'est, on voit très bien, la bête de la terre. De temps en temps, on a envie de dire, va donc, bête de la terre. Puis de montrer qu'on a très bien compris le chiffre de la bête. On peut le discerner. Dieu nous donne l'intelligence pour le discerner. Autrement, ça ne serait pas dit. Et donc, vous voyez, c'est en ce sens-là que dans la première épître, Saint Jean nous dit, vous n'avez pas besoin, puisque vous avez reçu l'onction, vous n'avez pas besoin de recevoir l'enseignement. C'est ça que ça veut dire. Vous avez reçu l'onction, du don de sagesse. Et tout chrétien a le don de sagesse. Il n'y a pas que les théologiens. Les théologiens, c'est une sagesse acquise. Alors quelquefois, ils s'appuient plus sur leur sagesse acquise que sur la sagesse infuse. Au moins ceux qui n'ont pas fait de théologie, ils appuient sur la sagesse infuse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de théologie, vous voyez, mais pour faire de la théologie en comprenant que c'est la théologie doit nous apprendre à aller encore plus loin dans l'amour de la sagesse infuse, le don de sagesse. Alors, on croirait que tout est perdu. Alors, immédiatement, cette vision du ciel, le redressement. Et là, vous voyez bien, parce que c'est pas l'agneau qui imite la bête de la mer, la bête de la terre, c'est l'inverse. Et l'agneau met sur le front de chacun de ceux qu'il aime son nom et le nom de son père. Comme la bête voulait mettre son chiffre sur le front de ceux qu'elle considère comme lui appartenant, sur le front et sur la main. Et j'entendis une voix venant du ciel, comme la voix des grandes eaux, comme la voix d'un grand coup de tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des sitaris, sitarisant sur leur sitar. Vous voyez, les charismatiques dans le ciel, ils sont là, on les voit, ils chantent un cantique nouveau. Devant le trône et devant les quatre vivants, les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 milliers qui ont été achetés de la terre. Cette vision du ciel et en même temps de ceux qui sont sur la terre, parce que c'est sur la terre, devant le trône de l'agneau, c'est-à-dire en adorant. Et la vie, un autre ange qui volait au zénith. Il avait un évangile éternel pour évangéliser ceux qui sont assis sur la terre. Et toute nation, et tribu, et langue, et peuple, il disait d'une voix forte. Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car elle est venue l'heure de son jugement. Vous voyez, à partir de là, on entre dans l'heure du jugement. C'est une autre chose. Alors l'heure du jugement, c'est quoi? C'est le dévoilement, je crois. Dans un terme moderne, on dirait ça. C'est le dévoilement de l'action fausse du démon et de ce qu'il y a de bon dans le cœur de l'homme. Ce qui est authentiquement de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Le dévoilement, c'est ça le jugement, un discernement poussé, un discernement divin, donc poussé jusqu'au bout. Et c'est impressionnant de voir que ce jugement, il est annoncé dans ce mystère de la crainte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car elle est venue l'heure de son jugement. Tous ceux qui peuvent recevoir ce jugement de Dieu, ce sont ceux qui sont dans cette crainte aimante, dans l'adoration. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Grand mystère de l'adoration. C'est très étonnant au fond. C'est l'adoration qui nous met dans l'attitude de celui qui accepte d'être jugé par Dieu. Donc de recevoir ce discernement et cette purification. Ceux qui n'adorent pas, ceux qui ne sont pas dans cette attitude de la crainte de Dieu et de l'adoration, ne peuvent pas recevoir ce jugement de Dieu. Ils sont rejetés, tout simplement. La Babylone, elle est rejetée. Il y a un autre ange, un deuxième suivi, en disant, elle est tombée, Babylone. Vous voyez qu'on ne la juge pas, la Babylone. Elle est tombée. Le jugement, c'est pour ceux qui sont capables de le recevoir. Très curieux, ça, comme théologie. Et je crois que c'est très important. Voyez, on ne dit pas que la Babylone est jugée. On constate qu'elle est tombée. Elle est tombée parce qu'elle ne peut pas souffrir la présence de Dieu. Dès que Dieu est présent, les démons fichent le camp à toute vitesse. Et tous ceux qui sont derrière eux ne peuvent pas supporter la présence de Dieu. Le péché fait qu'on ne peut pas supporter la présence de Dieu. Elle est tombée, Babylone la Grande, qui du vin de sa furieuse prostitution a abreuvé toutes les nations. Et un autre ange, un troisième, le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et en reçoit la marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. » Ils sont rejetés. Ils prennent le vin de la fureur de Dieu. Oui, c'est assez curieux. Ça. Je crois bien que si vous êtes attentif au langage de l'Apocalypse, c'est à l'égard de ceux qui adorent. Il y a une purification, c'est sûr. Tandis que les autres sont rejetés. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, mêlé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera torturé dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur torture monte pour des éternités d'éternités. Et ils n'ont de repos jour et nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Si on adore la bête et son image, soi-même on se condamne. On ne peut plus supporter la présence de Dieu. Et c'est soi-même. On se condamne en adorant la bête et son image. Ici est la patience des saints. Vous voyez, c'est curieux. D'un côté, c'est dit avec beaucoup de force, les croyants, face à la bête de la terre, doivent avoir la sagesse. Et les croyants, face à la Babylone qui tombe, doivent avoir la patience des saints. Un contraste assez net entre les deux. En face de l'astuce de la bête de la mer, hein, en face de son mensonge, alors l'Esprit Saint fait appel à la sagesse. Pour nous, c'est très significatif, vous voyez. Plus la lutte est mensongère, plus nous devons offrir notre intelligence à Dieu pour atteindre la sagesse. Ça me semble très net. Et Marthe insistait beaucoup là-dessus. Vous voyez, là, de plus en plus, une utilité grande, plus le mensonge est fort, plus il faut avoir ce discernement. Ça, elle le voulait, c'était très net, me l'a dit plus d'une fois. Parce que ça, c'est l'Apocalypse. C'est très beau de rencontrer dans le langage de Marthe une chose semblable à l'Apocalypse, vous voyez. Face au mensonge de la bête, la sagesse. Face à la Babylone qui dégringole. Tous les jours, des petites Babylones qui dégringolent. Face à ceux qui adorent la bête et son image, c'est la Babylone, ça. Il faut la patience. Ici, la patience des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'entendis une voix venant du ciel qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, ils se reposent de leur labeur, car leurs œuvres les accompagne. Oui, et c'est ça qui donne la patience. Hein. C'est vrai que c'est pas commode de voir des Babylones qui s'effondrent, des constructions du démon. C'est ça la Babylone, ceux qui adorent la bête et son image. Alors là, la patience. Patience et la force, n'oubliez jamais. La chose la plus belle de la force est la patience. Porter. Ce n'est pas d'aboyer. Non, c'est la patience. C'est porter patiemment, mais en ligne droite. Et alors ici, nous entrons dans cette... On est bien là, c'est successif tout ça, mais c'est l'heure du jugement. Et je vis. Et voici une nuée blanche. Alors, je crois qu'il ne faut surtout pas le considérer, vous voyez, comme successif. C'est l'heure du jugement. Alors, dans l'heure du jugement, il y a tout cela. Il y a la Babylone qui dégringole. Alors, on réclame. Et ceux qui adorent, il y a ceux qui sont fidèles. Et il y a, jusque dans le ciel, et je vis, et voici une nuée blanche, et sur la nuée assis quelqu'un de semblable à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille aiguisée. Vous voyez le symbolisme de la faucille aiguisée, qui est dans les mains du fils d'homme. C'est très curieux. Les grimaces du démon sont toujours significatives. Alors, on sait très bien que le symbolisme de la faucille a une signification particulière pour nous aujourd'hui. C'est la grimace de celle-là. Alors c'est important parce que ça fait comprendre à quel moment ça vient. On n'a jamais parlé de faucille pour le Fils de l'homme avant. Jamais. Alors il faudrait remonter dans l'histoire de la symbolique, pour savoir si la faucille est apparue avant. Et un autre ange sortit du sanctuaire, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Envoie ta faucille. » Je vous ai dit cette chose très mystérieuse, car elle est venue l'heure de moissonner. Cette chose très mystérieuse, quel est cet ange? Alors on me pose la question de savoir si qui peut commander au Fils, puisque c'est au Fils qu'on commande, c'est pas à Marie. Celui qui est semblable à un fils d'homme, ça c'est Jésus. C'est Jésus dans son sacerdoce, en tant qu'il juge, en tant que grand prêtre. Oubliez cette dimension du sacerdoce de Jésus, qui est tout à fait ultime, qui est dernière. C'est lui qui doit porter ce discernement. Et alors, il y a quelqu'un qui commande à Jésus grand prêtre. Ça reste là la grande question. Je crois que c'est la grande question de l'Apocalypse. Et un autre ange sortit du sanctuaire, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Envoie ta faucille et moissonne, car elle est venue l'heure de moissonner, car la moisson de la terre s'est desséchée. Et celui qui était assis sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. » Vous voyez le jugement par rapport à toute la moisson. Envoie ta faucille, coupée. Symbolise de la moisson qui se fait. Dans l'évangile de Saint Jean, nous le savons, quand Jésus, après avoir parlé à la Samaritaine, après avoir moissonné, Jésus retrouve les apôtres. Et les apôtres ne sont plus du tout au même diapason que Jésus. Et Jésus a cette phrase très étonnante. Vous dites encore 4 mois pour que la moisson soit blanche. Et je vous dis, levez les yeux. Et vous verrez que la moisson est blanche. C'est un passage très étonnant, ça. Pour montrer que les apôtres qui sont pris par l'organisation du repas, de tous les repas, même si on nomme des diacres, ils sont pris par l'organisation, ils oublient, ils disent dans 4 mois. Et Jésus dit, levez-la, et vous verrez que la moisson est blanche. Je crois que c'est une très grande leçon que Jésus donne à tous les apôtres. C'est curieux, et c'est étonnant. Et c'est l'ange ici. C'est un ange qui sort du sanctuaire. C'est celui-là qui regarde. Et à qui est remis cette autorité de dire au grand prêtre, jette ta faucille. Personnellement, je ne vois absolument, au point de vue théologique, hein, je ne vois que Marie comme reine. Si Marie est reine, elle a donc un pouvoir de reine. Alors est-ce que ce n'est pas celui-là de dire à son fils, jette ta faucille. Il faut réfléchir là-dessus. Ça me semble très important. Marie est envoyée, et comme reine, elle est envoyée. Elle est envoyée par le Père. Alors ça correspond, nul ne sait l'heure. Même pas le Fils de l'homme. Car il y a comme un secret remis par le Père à Marie. Et on nous l'annonce, puisqu'elle est reine, proclamée comme reine. C'est impressionnant, du reste. Vous voyez la salette. Hein? Si on essaie de comprendre, il ne faut pas interpréter l'Apocalypse par la salette, il faut faire l'inverse. Hein? Pour interpréter la salette par l'Apocalypse. C'est sûr que c'est jamais une révélation privée qui commande la révélation officielle de l'Église. Même l'Apocalypse. Parce qu'on serait très tenté pour l'Apocalypse. Bien non. L'Apocalypse est plus proche de notre foi que les révélations privées. Vous voyez bien pourquoi. L'Apocalypse est plus proche de notre foi que les révélations privées. Ceux qui aiment les révélations privées, ceux qui aiment les apparitions, il faut les laisser. N'enrayez jamais les pèlerinages. Non, non, il se fait du bien. Surtout pas crever les pneus du car qui va à tel ou tel endroit, surtout pas faire ça. Ce serait très mal de faire ça. Mais il faut comprendre que il y a quelque chose de plus grand qui est de revenir à la source, d'être tout proche du Père. Oui, Marie est envoyée par le Père hein, comme reine. La royauté là, de Marie, elle est rattachée au Père. Il ne faut pas l'oublier, toute autorité vient du Père. Jésus à la croix, il reçoit l'autorité du Père. Et il est roi. Et cette royauté est proclamée par le Père, et la régence de Marie est proclamée par le Père. Et là, on comprend pourquoi Jésus a dit que, oui, l'heure du jugement, personne ne le sait, l'heure du retour du Christ. Et alors, on voit là un autre ange, c'est extraordinaire, hein, comme un service, chacun son tour, un autre, un autre. Donc dans quelque chose de tout à fait simple, Il y a un geste impérial et royal. C'est impérial et royal de dire ça à celui qui est assis, quelqu'un de semblable, un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or. Le commandement suprême. Le commandement suprême. Et Jésus a reçu deux commandements suprêmes. Aller à la croix et revenir avec la faucille. L'un donné par le Père et l'autre donné par Marie. Je crois que nous pouvons dire ça. Je ne vois pas. Si vous avez une autre interprétation, vous me la direz, mais au plan théologique, hein. Parce que ça, on pourrait scruter indéfiniment ça, c'est tellement voilé. Hein. C'est tellement voilé. L'ange, qui est le plus banal, l'ange, hein. Dans l'Apocalypse, c'est tellement. Mais cependant, ils ont tous une qualification particulière. Ce serait intéressant. Relevez toutes les qualifications des anges, pour ceux qui aiment beaucoup les anges. Toutes les qualifications des anges. L'Apocalypse a un art extraordinaire de qualifier les anges. C'est vrai? Sorti du sanctuaire. Ben, c'est quand même une qualité de sortir du sanctuaire. Du sanctuaire céleste. Du saint des saints. Et un autre ange. Et encore, ça se multiplie. Je crois que ça se multiplie pour qu'on cache le secret. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'a-t-il pas dit tout simplement que c'était Marie, la reine? C'est tellement plus simple. Ça fait partie de l'éducation du Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit veut qu'on soit très intelligent pour Dieu. Alors s'il nous disait tout, on n'aurait qu'à répéter bêtement. Il ne veut pas. Il veut qu'on trouve. Il veut exciter notre curiosité, notre recherche. Et il aime qu'on cherche. Et il ne donne la lumière qu'après avoir beaucoup cherché. Il y a un autre ange sorti du sanctuaire qui est dans le ciel, ayant lui aussi une serpe acérée. Il y a un autre ange sorti de l'autel, celui qui a le pouvoir sur le feu. Et il cria d'une voix forte à celui qui avait la serpe acérée, disant, envoie ta serpe acérée et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont à point. Très très grand mystère, cet homme. Alors, est-ce que, vous voyez, il y a comme une première préparation, parce que l'ordre qui est montré là est successif, il ne faut pas le comprendre temporellement, hein. Pas du tout. Alors est-ce qu'il y a un premier avertissement qui est la vendange avant la moisson? Peut-être. Hein. Envoie ta serpe acérée et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont à point. Parce que c'est net, hein, que le jugement net et précis qui vient de Dieu. Ça se fait en une seconde, quoi. C'est moissonné. L'autre, c'est long. Alors c'est pour ça que je me demande s'il ne faut pas montrer qu'avant, il y a cela. Et ça, c'est pas gênant du tout, l'Apocalypse. On est une vision d'éternité. Donc dans l'éternité, c'est... Dans le temps, ça se réalise. Progressivement, envoie ta serpe acérée, vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont à point. Et l'ange jeta sa serpe sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et jeta le tout dans la cuve, la grande cuve de la fureur de Dieu. Et la cuve fut foulée en dehors de la ville. Et de la cuve, il sortit du sang jusqu'au bord des chevaux sur 1600 stades. Alors, est-ce que ce n'est pas la grande purification? Avant, Alors à ce moment-là, ce ne serait plus le Fils de l'homme. Oui, j'essaie de comprendre. Ce ne serait plus le Fils de l'homme qui a la serpe, mais un ange sorti du sanctuaire. Alors cet ange sorti du sanctuaire, il dit hein, un autre ange sorti, ici sorti de l'autel, on dit un autre ange sorti du sanctuaire, qui est dans le ciel, ayant lui aussi la serpe. Donc deux anges qui sortent du sanctuaire, un autre ange sorti de l'autel, qui est dans le sanctuaire, celui qui a le pouvoir sur le feu. Il cria d'une voix forte à celui qui avait la serpe acérée, disant, envoie ta serpe. Mystère. Est-ce que c'est la mission d'Esprit Saint, pouvoir sur le feu? Très possible. Jésus est bien dit l'envoyé du Père. Est-ce que c'est l'Esprit Saint et Marie? Parce que ça me semble le dernier avertissement. L'avertissement le plus fort. La vigne. Les fruits de la vigne, c'est la charité fraternelle. Ça, c'est dans Saint Jean, chapitre 15. Puisque la fécondité de l'Église, c'est la charité fraternelle. Et les fruits, c'est pour ça que les fruits, c'est toujours les membres du Christ, c'est pas le Christ, c'est les membres du Christ, c'est nous. C'est la charité fraternelle qui est justement ce point de vue des grappes et du raisin. Alors est-ce que, moi ça ne m'étonnerait pas du tout au point de vue théologique ça, Marie est la mère de la charité fraternelle. Parce que sa maternité mystique sur Jean et sur nous, c'est la charité fraternelle. C'est ça que je dis que le concile, c'est le concile de la charité fraternelle. Et ça, c'est les fruits de l'Église, c'est la charité fraternelle. C'est Marie, c'est la maternité de Marie, ça. C'est Marie qui nous permet de nous aimer les uns les autres, vous savez bien, dans une communauté religieuse, hein. Faut jamais oublier ça. La chose la plus étonnante, c'est qu'on s'aime. Et qu'on s'aime de charité fraternelle, c'est le grand, grand mystère. Et ce grand mystère, c'est Huysmans qui disait ça, vous savez bien. Quand il passait devant le grand mur des bénédictines à Paris, là, il disait, pour moi, le plus grand signe de la divinité de l'Église, c'est qu'il y a des femmes qui habitent là et qui ne se tuent pas. C'est le plus grand signe de la divinité de l'Église. C'est pas moi qui dis ça. Hein, et lui, là, elle vit dans la charité fraternelle. C'est très beau, ça. C'est le signal. Alors, vous voyez, Marie et l'Esprit Saint, je me demande, hein, un ange sorti de l'autel. Le Christ est l'autel. Il est la victime. Il est le prêtre. Alors, si c'est ça, c'est, on verrait bien cette première purification. Et moi, je dirais, ça, c'est post-conciliaire. Ce que l'Esprit Saint veut aujourd'hui, c'est cette intensité de charité fraternelle. On le sent comme une reprise très très forte de la charité fraternelle. Partout, vous voyez, le renouveau dans les foyers, c'est la charité fraternelle, c'est l'amour des conjoints, transformé par l'amour divin. Dans les communautés religieuses, le renouveau, c'est la charité fraternelle. Alors elle se manifeste différemment, vous voyez. Chez les charismatiques, ça se manifeste d'une façon très, très, très bruyante. N'est-ce pas? Chez d'autres, ça se manifeste d'une façon moins bruyante. Mais c'est toujours la charité. On sent bien. On sent bien que une des exigences très, très très forte. Et c'est très difficile quand l'Esprit Saint nous demande en même temps d'être des philosophes et des théologiens. Parce que la philosophie et la théologie aiguisent notre intelligence. Et quand notre intelligence est aiguisée, c'est difficile de ne pas voir les défauts du voisin, de ne pas voir leurs bêtises. Il avait pas arrivé à dépasser. Et c'est ça le chef-d'œuvre de Marie. Hein. C'est ça, c'est le chef-d'œuvre de Marie, je suis sûr. Et c'est bien ça. C'est Marie qui va faire qui va vendanger la vigne. C'est l'Esprit Saint qui lui dit, envoie ta serpe acérée et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont à point. Et l'ange jeta sa serpe sur la terre, vendangeant la vigne la vigne de la terre, et jeta le tout dans la cuve de la grande cuve, la grande cuve de la fureur de Dieu. Vous voyez, c'est pas Marie qui juge, elle remet tout. Elle a tout pris, elle a tout enveloppé. Et c'est elle continue. C'est sur ça qui me chagrinait. C'est, d'un côté, on voit très bien, c'est le Christ qui juge. Ici, non. On met tout dans la grande cuve de la fureur de Dieu. La cuve. Et la cuve fut foulée en dehors de la ville. Et de la cuve sortit du sang jusqu'aux morts des chevaux, selon 1600 stars.